CFM, le mag du pays Midi-Quercy.
Découvrez un pays d'art et de tradition populaire. Une faune sauvage, une flore remarquable, ainsi qu'une histoire et une architecture exceptionnelles. Des racines occitanes à l'écotourisme, un patrimoine culturel et naturel dans des paysages très diversifiés, Midi-Quercy, toute une histoire.
Un lundi sur deux à 12h et à 17h, rediffusé le samedi suivant à 18h, et bien sûr en podcast sur cfmradio.fr, dans l'onglet Les émissions, Midi-Quercy, toute une histoire.
Toute une histoire et même aujourd'hui toute une préhistoire avec Edmé Ladier qui est préhistorienne, qui a longtemps été directrice du muséum de Montauban et qui a beaucoup fait de fouilles archéologiques dans la vallée de l'Aveyron, au pied de Bruniquel en particulier. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler des hommes qui ont orné ces grottes-là, nous allons parler dans une prochaine émission avec vous. Aujourd'hui, on va essayer de voir quel était le climat, la faune et la flore au temps où on a des traces qu'en creusant. C'est un petit peu ça, non ?
Oui, c'est à peu près ça, voilà.
Il faut creuser pour savoir le temps qu'il faisait, on le sait ? On le sait comment ?
Ah, on le sait, il y a des témoignages directs et indirects. Et on le sait, par exemple, parce qu'on connaît par les fouilles, les animaux qui vivaient. Et aussi, par les fouilles, les plantes. Et les plantes, c'est encore plus indirect, parce que les plantes ne se conservent pas, mais les pollens des plantes se conservent. Et donc, dans certaines circonstances, on retrouve des pollens qui permettent de savoir avec précision quel était l'environnement végétal.
Et donc, on peut avoir la contemporanéité entre certains animaux et certaines plantes dont ils se nourrissaient, par exemple.
Absolument, tout à fait.
Alors, on remonte jusqu'à quand pour avoir des connaissances vraiment scientifiques certifiées ?
Alors, la préhistoire, si on remonte plein, définition basique, c'est tout ce qui s'est passé depuis que les ancêtres de l'homme sont apparus sur Terre. Donc, ça remonte à, maintenant, on est à 7 millions d'années. Donc c'est vrai qu'à Bruniquel, où on est entre 17 000 et 10 000 ans, c'est très près, c'est hier.
C'est très près, oui,
c'est très près, c'est hier.
Rapport à la formation de la Terre, par exemple.
Voilà, tout à fait, par rapport à l'histoire totale de l'humanité, puisqu'elle remonte maintenant, on pense à peu près 7 millions d'années.
L'humanité a 7 millions d'années.
Ah, tout à fait. Les plus anciens hominidés, qui seraient pas forcément nos ancêtres directs, mais des ancêtres de nos ancêtres, ça remonte à peu près à 7 millions d'années, parce qu'il faut savoir que, on en parlera une prochaine fois, mais que l'humanité, ça n'est pas un développement linéaire d'une espèce à l'autre, c'est buissonnant.
C'est buissonnant, puis en plus, entre l'érosion, les glaciations, ça a laissé des traces, non seulement sur la géographie, mais sur l'histoire des espèces.
Voilà, alors c'est vrai que les espèces, les très anciennes espèces humaines, on les connaît, mais mal, parce qu'on n'a qu'un ou deux spécimens. Mais plus on se rapproche de nous dans le temps, plus c'est facile. Non, moins c'est difficile, on va dire.
Oui, plus il y a de preuves éparses.
De données, voilà, ouais, effectivement de preuves, de documents, etc.
Alors quand on est archéologue, comme ça, on est passionné par ce que trouvent les autres aussi.
Ah ben c'est absolument indispensable, on ne fonctionne pas en circuit fermé, il faut être au courant de ce que trouvent les autres, et en général on est tous en relation les uns avec les autres, on se communique nos résultats.
Alors avant que vous en veniez à m'expliquer l'impact par exemple du climat sur la géographie, est-ce qu'en archéologie comme ça, peut-être même en anthropologie, je ne sais pas, on émet des hypothèses et puis par élimination on en retient que certaines autres, je ne sais pas, moi je me souviens avoir lu que Néandertal et Homo sapiens n'avaient pas pu se rencontrer, puis aujourd'hui on dit que si.
Ah maintenant non seulement on dit que si, mais on a des preuves par la génétique qui se sont rencontrés et même métissés.
Et qu'ils ont produit.
Et
qu'ils se sont reproduits.
Qu'ils ont dû à un moment donné reproduire. Ils se sont métissés, mais on n'a aucune trace qu'il y ait eu des produits.
Ah, c'est pas comme l'âne et le cheval qui produisent un autre animal
oui,
qui, lui, ne peut pas se reproduire. C'est ce qu'on nous disait.
C'est le même principe. Ah. Apparemment, c'est le même principe.
Mais bon, dans l'ADN, on trouve des traces...
Et donc, il faut savoir que dans l'ADN des hommes contemporains, dans notre ADN, on a chacun d'entre nous entre 2 et 4% d'ADN de Néandertal.
Voilà, mais on ne sait pas lequel c'est exactement.
Voilà, alors c'est des Néandertal, et on sait que les métissages ont eu lieu il y a très longtemps, quand ils coexistaient ensemble au Proche-Orient, aux alentours de 100 000, 80 000 ans.
Alors ça, moi, il me tarde qu'on passe à l'émission sur les hommes, parce que là, j'ai beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, on parle, par exemple, en Europe occidentale et en France, comment sont apparus ces continents avec la forme actuelle ? Ça a mis longtemps.
Ah oui, ça, alors ça, on se lance dans la géologie, dans la formation de la Terre, etc. Et ça ferait un sujet... On ne va pas remonter jusque-là, quand même. Donc, il faut savoir qu'au temps préhistorique qui nous intéresse, on va dire... Pour Bruniquel, c'est la dernière phase de la dernière glaciation, donc c'est très récent. La configuration des terres était pratiquement la même que maintenant.
Sauf que les terres gelées, on les trouvait déjà dans les plaines du Nord.
Un détail près, c'est qu'effectivement, au maximum glaciaire, c'est-à-dire il y a à peu près 20 000 ans, les glaciers recouvraient toute une partie de l'hémisphère nord, et on sait qu'en Europe en particulier, Berlin était sous la glace. Et donc il y avait une conséquence, c'est que toute cette eau qui était gelée sous forme de glacier n'était plus dans les océans, et donc le niveau des océans était beaucoup plus bas que maintenant. Au maximum glaciaire, il était à peu près de 120-180 mètres plus bas. Et par exemple, à l'époque, évidemment, l'Angleterre n'était pas une île, et la Tamise et la Seine étaient des affluents d'un même fleuve qui circulait à l'endroit où il y a la Manche maintenant.
D'accord. Donc en fait, les courants qu'on retrouve dans la Manche et la mer du Nord étaient des fleuves.
Voilà, exactement. Exactement.
Et la circulation des eaux était globalement la même, le Gulf Stream qui venait...
C'était pas tout à fait la même, puisque notre climat actuel très tempéré en Europe est dû en fait au Gulf Stream. Et en période de grande glaciation, les courants océaniques ne passent pas au même moment. Parce qu'en fait, on est à peu près sûr que ce sont les courants océaniques qui font un peu le climat. Donc, quand les courants océaniques ne passent pas près d'une terre, celle-ci est très, très, très froide. Et elle se réchauffe que quand il y a un réchauffement global et que le courant océanique peut remonter. Sachant que si ça se réchauffe trop, il n'y a plus de courant océanique et que ça réentraîne une glaciation. C'est la théorie, hein.
La théorie, voilà. On ne va pas rentrer dans ce qui provoque les périodes de glaciation et le réchauffement, mais en tout cas les conséquences pour nous sur la géographie, comme sur l'apparition, je ne sais pas, des premiers mammifères herbivores, c'est le fait d'avoir de grandes plaines qui ont été tassées par les glaciers et qui du coup font pousser...
Voilà, mais pour la période quaternaire, donc c'est la plus récente des ères géologiques, effectivement, en Europe occidentale, il y a une faune très, 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 très intense, très, très variée qui s'est développée, parce qu'il y avait effectivement des grandes steppes qui étaient très riches en végétaux, donc qui pouvaient alimenter une grande quantité d'animaux.
Et à cette époque-là, les animaux ne sont pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait toutes sortes d'animaux, puisque le climat était très différent.
En partie, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'animaux qui vivaient ne serait-ce que chez nous, dans la vallée de l'Aveyron, qui, comme il faisait très froid, ça leur convenait très bien, mais quand ça s'est réchauffé, ça leur convenait plus. Donc maintenant, ils sont repartis vers le Groenland ou la Laponie, c'est les rennes.
On a eu des rennes dans les vallées
d'Aveyron. Tout à fait, absolument. Il y avait des rennes. Il faut imaginer qu'il y avait des rennes, des grands troupeaux de chevaux sauvages, bien entendu, des troupeaux de bisons, des troupeaux d'aurochs, qui sont des bœufs sauvages, qui sont les ancêtres de nos vaches et de nos bœufs. Il y avait aussi un animal qu'on retrouve plus maintenant que dans les steppes d'Asie centrale ou au Kazakhstan, qui s'appelle l'antilope saïga. Donc ça aussi, qui déteste les climats chauds. Donc au fur et à mesure que le dernier réchauffement climatique s'est opéré, tous ces animaux sont remontés vers le nord. Il y avait aussi des bœufs musqués, qu'on trouve maintenant que plus que dans le Grand Nord et dans des conditions climatiques très particulières. C'est des animaux qui détestent l'humidité, il leur faut un grand froid mais bien sec.
Est-ce qu'il y avait aussi les prédateurs, finalement, de tous ces...
Il y avait leurs prédateurs, évidemment. Donc, pour les périodes plus anciennes, quoique, il y a une question de latitude qui joue aussi. Chez nous, à l'époque de l'occupation de la vallée de l'Aveyron, on va dire au paléolithique supérieur, on n'avait plus, par exemple, de félins à dents de sabre, alors qu'on en avait encore dans l'Europe du Nord. Mais, comme prédateurs, il y avait des loups. Des renards, on avait même ici des renards polaires.
C'était pas d'ours ?
Des ours, Il y avait déjà, à la fin de la période, il y avait déjà plus d'ours des cavernes, mais des ours bruns.
Et les lions ?
Alors, les lions des cavernes, il y avait du lion des cavernes. Effectivement, ils ont été représentés dans diverses grottes ou sur des objets. En particulier, il y en a dans la grotte du Béchemerle. On en a trouvé aussi des très jolis gravés dans au Mas d'Asile, dans une grotte des Pyrénées. Donc, c'était un animal qui était... fréquent, mais qui était là.
N'imagine pas les hommes peindre sur les parois des cavernes des choses qu'ils n'auraient jamais vues.
C'est arrivé. Il y a certaines grottes ou certains endroits où ils ont représenté des animaux. Donc on ne sait pas si ça sortait de leur imagination ou s'ils avaient fait peut-être une petite fumette avant. Mais enfin, c'est tellement bizarre que...
Quoi, des licornes, des choses comme ça.
Voilà. Apparemment, c'est des animaux imaginaires. Ils l'ont fait aussi.
Alors quand vous dites ça, c'est parce qu'on n'en a pas retrouvé de traces fossilisées.
De quoi ?
De ces animaux dont vous dites qu'ils sont imaginaires. Parce que
c'est des animaux, on voit très bien qu'ils n'existent pas, qu'ils n'ont jamais existé. Quoi. C'est des animaux de fantaisie.
Quoi, des chevaux avec des ailes
Non, c'est déjà même pas ça, c'est des animaux un peu bizarres, avec des trop courts ou trop grands, avec des grandes gueules, avec deux cornes, comme une licorne, mais à deux cornes, enfin des choses très bizarres, et qui ne peuvent pas être des représentations d'animaux.
Mais pour tous ceux qui sont avérés dans ce que vous me dites, là, les lions, les ours et tout ça, on a trouvé des preuves.
Ah, tout à fait. Il y a à la fois les preuves, donc les représentations qu'en ont fait les hommes préhistoriques et les restes qu'on trouve dans les sites, dans les habitats.
Alors, tous ces animaux-là, ils avaient quelle flore ?
Ah bien ça, alors il faut dire aussi que ça a beaucoup varié. Rien que pendant en Europe, depuis 3 millions d'années, il y a eu 5 grandes glaciations. Il y a eu ça n'arrête pas, c'est des périodes de réchauffement et de refroidissement. Et sachant qu'en général, les périodes glaciaires sont beaucoup plus longues que les interglaciaires. Et actuellement, on peut dire qu'on est dans un interglaciaire. Et il y aura un jour, un refroidissement. Bon, je pense qu'on sera pas là pour s'en apercevoir, et que ça prend suffisamment de temps pour qu'à l'échelle d'une génération ou deux, on puisse pas s'en apercevoir vraiment non plus. Quand ça atteint les proportions que ça avait atteintes pendant, par exemple, la dernière glaciation, celle de Wurm, aux alentours de 20 000 ans, où vraiment c'était extrêmement froid.
Alors extrêmement froid, l'impact que ça a sur le paysage, c'est quoi ? C'est une banquise ?
Non, non, c'est la toundra.
Ah.
C'est-à-dire qu'il faut imaginer aussi, par exemple, pour rester dans nos régions, tout l'environnement, là, presque désert, uniquement avec des herbacées, éventuellement des arbres très rabougris, des petits saules arctiques, quelques pins, très peu d'arbres, parce que quand il fait un climat très froid, c'est pas du tout propice au développement des arbres, mais en revanche, effectivement, surtout des herbes... Les herbacées, quoi.
Et en période de réchauffement, la vie revient comme si de rien n'était, ou bien ce sont les oiseaux qui ont redistribué des graines, ceux qui étaient gelés sous le permafrost qui ressortent.
Ça revient petit à petit parce que c'est très lent. Et on sait, par exemple, sur la flore, qu'après une période de glaciation, le premier arbre ou arbrisseau qui s'installe, c'est le noisetier. Tout de suite. Ce qu'on appelle une plante pionnière. Donc on commence à avoir des noisetiers qui existaient dans les régions qui n'étaient pas soumises à un froid intense et qui petit à petit colonisent, remontent vers le nord au fur et à mesure que la température remonte et que l'environnement leur est plus favorable.
C'est les écureuils, ça.
Voilà, et on voit en même temps apparaître d'autres arbres. Donc on a toujours des pins, on a des chênes, des hêtres.
Alors comment on arrive à le dater, tout ça, toutes ces phases-là que vous me décrivez ?
Alors, on les date... On date en fait surtout par la datation en fait des restes des animaux. Pour les plantes, c'est très difficile puisque donc pratiquement ça se conserve pas. Les pollens sont trop petits pour qu'on puisse les dater directement. Mais toutes les recherches en préhistoire, c'est vraiment tout un réseau de disciplines qui sont interconnectées et qui sont indissolublement interconnectés, sinon on n'y comprend rien. On ne peut pas être chacun dans son truc. Donc maintenant, avec la méthode du carbone 14, on date des ossements. On sait que dans une couche, il y a des ossements qui remontent à telle période, datés par le carbone 14. On sait que dans la même couche, il y a des pollens de plantes donc, qui sont contemporaines. Donc on sait qu'à cette période-là, il y avait telle plante dans l'environnement, dans un environnement de 15 à 20 km. Et on trouve évidemment des objets faits par l'homme ou des restes humains. Et donc on sait que tout ça, c'est contemporain.
Du coup, on sait ce qu'ils mangeaient ?
Voilà, exactement.
L'avantage... On ne sait pas comment il faisait cuire quand même encore.
Ah, si. Si, on en reparlera. Si, on a des idées assez précises.
Ah, on va parler quoi de poterie, de céramique,
de cuisine.
On peut parler cuisine de l'homme préhistorique.
Absolument.
Bon, la fin de la dernière glaciation a un impact sur ce qu'on vit aujourd'hui, puisque le réchauffement a abouti à l'installation des climats tels qu'on les a.
Voilà, la fin de la dernière glaciation, ça se produit il y a environ 10 000 ans. Et donc là, petit à petit, il y a un réchauffement qui se fait, un grand changement évidemment dans l'environnement, de végétation. Il y a une forêt qui s'installe de façon très étendue et relativement pérenne, celle qu'on connaît. Il y a eu d'autres petites variations climatiques depuis, mais très mineures. Des petites variations, il y a eu des périodes il y a 2500 ans où le temps était un peu plus sec et un peu plus froid, d'autres périodes dites atlantiques où c'était un peu plus doux et un peu plus humide, mais c'est extrêmement global. Enfin, je parle au niveau de l'Europe, parce qu'on ne peut pas faire ça au niveau de la Terre, évidemment.
Alors bon, de l'Europe, venons à ce qui nous intéresse, le territoire du Pays Midi-Quercy. Est-ce que vous avez étudié en particulier les gorges de l'Aveyron au-dessous de Bruniquel? À quoi ça ressemblait? Il y avait déjà la même vallée, les mêmes falaises?
Et il faut imaginer, par exemple, les gorges de l'Aveyron actuellement, aux environs de Bruniquel, entre Saint-Antonin et Bruniquel, elles sont déjà très abruptes. Et on remarque qu'au pied de ces falaises, il y a des grands talus inclinés à 45 degrés qui sont recouverts de végétation. Et donc il faut savoir qu'en fait, tous ces talus, c'est de la pierraille qui provient de l'érosion des falaises qu'on voit encore. Et cette érosion s'est produite à la fin de la dernière glaciation. Donc au moment où, par exemple, les abris de Bruniquel étaient occupés, donc en gros entre 17 500 et 12 000 avant le présent, il faut imaginer tout ce volume qui est au pied des falaises, sur les falaises. Donc les falaises étaient beaucoup plus hautes. Et donc, le paysage était encore beaucoup plus encaissé. Et ça a aussi un impact donc, sur la circulation des animaux. Donc on est à peu près sûr que les rennes en particulier, puisqu'il y avait des rennes, ils passaient l'été plutôt par ici ou dans le Rouergue. Et à l'automne, ils repassaient par la vallée de l'Aveyron pour aller vers des zones plus douces dans les grandes plaines. Et donc là, ils étaient coincés dans un couloir, dans un passage, et donc ils étaient obligés de passer par là. Et ils ne pouvaient pas s'échapper quand ils y étaient.
Le chasseur-cueilleur...
Donc le chasseur les attendait, pas au tournant, mais au guet.
Et donc, territoire de chasse, donc territoire où on s'installe, peut-être pas comme sédentaire, mais au moins en utilisant les abris, les cavités naturelles.
Voilà, tout à fait.
Et donc là, on retrouve quoi ? Du charbon de bois ?
Alors, on retrouve dans ces habitats, on retrouve... alors, il faut savoir aussi que chaque habitat était occupé pendant plusieurs millénaires. Sachant qu'il s'y installait, le site que j'ai fouillé, par exemple, a été occupé pendant, que je dis pas de sottises, pendant 5000 ans quand même. Et ils sont venus 12 ou 13 fois. Calculé que ça faisait en moyenne une fois tous les 100 ans. Sachant que ça ne veut rien dire, parce qu'ils ont très bien pu venir deux ans de suite, ne plus venir là pendant 300 ans et revenir après. Mais à chaque fois, ils s'installaient. On a pu préciser, pour le site que j'ai fouillé à Bruniquel, qu'ils n'étaient là que pendant l'été.
En fait, c'était une cabane de chasse.
Donc, c'était un camp de chasse, de chasseurs, voilà. Ils y faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils apportaient leurs outils, éventuellement, ils taillaient leurs outils en silex, ils fabriquaient des armes de chasse en bois de renne, des outils en os, ils chassaient, et à l'automne, ils repartaient. Et donc, ce qu'ils laissent, heureusement pour nous, ils ne connaissaient ni les déchetteries, ni le balai. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est tout leur... En fait, c'est leur poubelle, c'est leur déchet de cuisine.
Alors ça, Ça, un préhistorien qui trouve un tas de déchets, il se régale. Il dit, touchez plus à rien, je vais y aller.
Tous les archéologues, même les gens qui travaillent sur le gallo-romain ou le médiéval, les endroits les plus riches, c'est les dépotoirs. Sachant qu'à cette époque-là, ils avaient des lieux dédiés pour leurs déchets. Les paléolithiques, non.
Et alors, on peut dire que c'est trié, sauf que c'est trié verticalement, strate par strate.
Par période, c'est tout. Donc, on trouve là les restes de tous les animaux qu'ils ont consommés. Et c'est comme ça qu'on sait qu'à Bruniquel, par exemple, ils ont chassé énormément le renne.
Qu'ils faisaient cuire, qu'ils faisaient sécher.
Ah oui, ils faisaient cuire, probablement sécher aussi, qu'ils ont chassé le cheval, le bison, l'auroch, les chamois et les bouquetins, parce qu'il y en avait énormément, tout simplement parce que maintenant, c'est des animaux de haute montagne. Mais vu le climat, comme il faisait très froid, ça leur convenait très bien. Et ce qu'aiment ces animaux, c'est les rochers. Donc sur les falaises de Bruniquel, ils étaient tout à fait à leur aise. Donc il y en avait énormément et les Magdaléniens les ont chassés.
L'association qui à Bruniquel nous propose de la chasse comme au temps préhistorique, elle est dans la vraisemblance sur les propulseurs.
Ah tout à fait, tout à fait. On a bien étudié ces armes préhistoriques. On sait maintenant comment ça marchait, quel était le principe. Il y a des concours internationaux, intercontinentaux même, de tir aux armes préhistoriques. Et ce qu'il y a aussi, c'est que nous autres, nous faisons ça de temps en temps pour un concours comme ça, mais ces gens-là, ils l'utilisaient tous les jours. Donc ils devaient être beaucoup plus adroits.
Et puis bien obligés.
Et ils étaient bien obligés.
Ouais, tu rates, tu manges pas.
Et c'est exactement ça.
Est-ce qu'on peut imaginer, on est déjà sur l'homme là, hein, on a quitté le climat, on va y venir dans une prochaine émission, mais est-ce qu'on peut imaginer le partage des tâches entre hommes et femmes déjà?
Ça c'est une grande question, on n'en sait absolument rien. On n'a aucune trace. On sait par exemple, il y a des sépultures. Donc on parlait que des hommes anatomiquement modernes, des hommes de Cro-Magnon, par exemple. Et dans les sépultures, il y avait énormément de bijoux, de parures, d'objets, etc. Et on s'aperçoit qu'il y avait autant d'objets et autant d'objets de parures dans les tombes d'hommes que dans les tombes de femmes. Donc déjà, à ce niveau-là, il n'y avait probablement pas de discrimination. Et même dans les tombes d'enfants.
Ce sont les tombes qui nous donnent des indices sur la coquetterie ?
Ah, tout à fait. Sachant que la parure, on en parlera avec l'homme, ça apparaît avec l'homme. C'est indissociable.
Le grand voyage de Jean Nemoel, vous l'avez lu ?
Oui,
vous
j'ai lu tous les tomes. Bien entendu.
Vous avez fouillé pour trouver les invraisemblances, comme tous les scientifiques ?
Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'elle s'est bien renseignée. Elle a passé des années à rencontrer tous les chercheurs, sur tous les chantiers de fouilles, sur tous les sites. Et tout ce qu'elle dit n'est peut-être pas vrai, mais vraisemblable. Et c'est extrêmement intéressant. Et on connaît, c'est-à-dire quand on lit, elle donne des noms de lieux de fantaisie, mais quand on connaît un peu, on dit ah, là, ils sont à Gonersdorf. Non, là, ils sont, ça se passe à une période antérieure. Là, ils sont à Dolnivestonic et en Tchéquie. Ah, là, elle parle des tombes de Sungir. Là, ils sont à Willendorf.
Et ils viennent chez nous, en Dordogne aussi.
Et elle termine son voyage en Dordogne.
Voilà. Alors on va parler de ça dans une prochaine émission, que vous viendrez nous faire sur l'homme au temps préhistorique. En particulier, je vous poserai des tas de questions, parce que le grand voyage, moi, ça m'a ébouriffé.
Ah, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très étonnant. Et donc, pour revenir sur le climat, ça a eu aussi un impact. Le dernier réchauffement, celui dans lequel nous sommes, avec un renouveau de la végétation, donc une nouvelle apparition des forêts, il y a eu d'autres inventions, puisque le gibier a changé, il n'y avait plus de rennes, mais il y avait des cerfs. Donc les hommes ont continué à vivre à la même façon qu'avant, mais dans un environnement différent et avec des ressources différentes. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont inventé l'arc. On ne sait pas trop comment, mais a priori, c'est à cette époque-là. Mais il faut rester très prudent, parce que longtemps, on a pensé que la domestication du chien remontait au néolithique. Et on a des preuves maintenant. On a retrouvé des restes de chiens qui ont 15 000 ans. Et on est à peu près certain que dans la grotte Chauvet, il y avait un enfant avec un chien domestique. avec les empreintes qui sont restées sur le sol. C'est pas une preuve, mais c'est...
Il me tarde, mais la vieille qu'on se retrouve pour l'émission consacrée à l'homme préhistorique d'ici, quoi, 2 semaines. Merci à vous.
Merci à vous.
C'est le mag du pays Midi-Quercy.
Découvrez un pays d'art et de tradition populaire. Une faune sauvage, une flore remarquable, ainsi qu'une histoire et une architecture exceptionnelles. Des racines occitanes à l'écotourisme, un patrimoine culturel et naturel dans des paysages très diversifiés, Midi-Quercy, toute une histoire.
Un lundi sur deux à 12h et à 17h, rediffusé le samedi suivant à 18h, et bien sûr en podcast sur cfmradio.fr, dans l'onglet Les Émissions. Midi-Quercy, toute une histoire.